Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 3. C'est le troisième tiers de l'année et pour réaliser ce troisième top de l'année, je serai donc là, moi, Arnaud et mon partenaire dans le crime. C'est bien. Et bien évidemment, pour ce troisième top que je soumets à Oro et son immense oreille culture musicale, j'y ai vraiment fait un truc. À la con, je lui ai demandé le top des rural songs, de quelle musique vous allez écouter quand vous vous réveillez au milieu de la verte campagne après une belle soirée au coin du feu de la cheminée des beaux-parents. Hein ? Et ben qu'est-ce que tu as trouvé, Oro ? Il nous a trouvé, honnêtement, un de ses meilleurs quintettes de reco. Du coup, par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui ?
Alors on commence tout simple, on commence par le EP Tides of Tomorrow de Kate. Kevin, pas de surprise, hein, c'est vous êtes dans le podcast Estampilly, fan de Kevin.
Yes.
Donc, Tides of Tomorrow, c'est le disque champêtre des lendemains qui chantent en famille. C'est un album qui est sorti en 2002, juste avant Antenna. Antenna, c'est le disque de Kevin qu'ils ont sorti chez une major, le seul et unique. Donc, après avoir fait des débuts avec Tony Truant, avec... Until Your Heart Stop, donc qui était un disque metal hardcore avec plein de gros riffs partout et tout, c'était un peu le Master of Puppets du metal hardcore chaotique quoi. Ils ont enchaîné avec Jupiter qui était beaucoup plus rock, mais rock spatial, Failure, très très aérien, beaucoup de guitare acoustique et tout, donc très très différent. Et après ça, ils ont signé sur une major, mais avant de partir, avant de faire leur au revoir au monde du milieu indépendant, ils ont sorti ce EP, qui est sorti la même année que leur album, et qui était le dernier truc qu'ils ont sorti chez Hydrahead, donc qui était le label qui avait sorti les deux albums précédents, et qui était le label de Iron Turner, donc accessoirement chanteur guitariste de Isis et maintenant Sumac. Donc c'était le EP pour dire au revoir et pour le coup c'était le EP qui laissait présager du meilleur pour l'album qui est malheureusement pas ouf. Antenna, c'est un album très 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 décevant parce que c'est beaucoup plus rock mainstream. Le groupe à la sortie s'est défendu de dire qu'ils avaient été influencés par le label, mais en fait un an après quand ils ont fait des interviews, une fois que ça allait plus très bien, ils disaient genre honnêtement si en fait on nous a un peu pris pas pour des guignolos, mais ils nous a un peu influencé en disant genre ouais, ce serait bien que vous fassiez ci, ce serait bien que vous fassiez ça, et puis ils se sont un peu laissés porter parce qu'ils se sont dit peut-être que ça peut marcher, peut-être pas forcément des mauvaises idées, puis en fait c'est des trucs qui ont dénaturé leur son. Donc à un moment Antenna, il y a la moitié des morceaux qui sont pas ouf, puis l'autre moitié qui est quand même ok mais qui a rien d'exceptionnel je trouve, alors que Tides of Tomorrow c'est vraiment la perfection pop en revanche. Ce qui est un peu assez tristoun du coup, enfin pas tristoun mais ironique en fait, que ce soit le truc qui est sorti sur le label indé en fait, parce que vraiment les morceaux sont tous sublimes. C'est vraiment là où on sent que Steven Brodsky monte tout son talent en tant que chanteur. Il s'affirme avec une voix claire, vraiment ultra maîtrisée. Tous les morceaux ont des grosses accroches, mais en même temps c'est des morceaux qui sont assez expansif, c'est pas non plus du sais, même pour faire un truc simple, je veux dire, c'est pas Creep de Radiohead par exemple qui est tout à fait efficace, mais ouais. qui suit un format super bateau, ultra pop quoi.
Ouais, alors que qui est là, très bien coup, calibré.
Ouais. Ouais, voilà, alors que même si c'était pas nécessairement forcément l'intention du groupe, au final ça reste un morceau ultra pop. Alors que Kevin, là, sur Tides of Tomorrow, même si leur intention c'est de faire quelque chose de très 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 enjôleur, mélodique et qui soigne en fait la bonne humeur, ben du coup les structures sont quand même un peu plus ouvertes quoi. Donc c'est des morceaux qui sont globalement plutôt autour des 5 minutes. Et en revanche, c'est vraiment typiquement le genre de disque qu'on peut facilement passer. Je pense n'importe qui écoute ça, soit ils accrocheront pas, soit ils accrocheront. Mais il y aura personne au monde qui dira genre « Ah, mon Dieu, c'est horrible ce que vous passez comme fond sonore quoi. » C'est vraiment le genre de truc que tu peux t'imaginer voir un groupe de personnes prendre des instruments au coin du feu et reprendre les morceaux ensemble quoi. C'est typiquement ce genre d'atmosphère. Donc bon, bah pour commencer un top champêtre, je me suis dit que c'était pas forcément le plus mauvais choix.
Alors moi, je t'avais que je connaissais pas du tout l'EP, que je l'aime bien, mais que j'ai été tellement surpris par le style. À la fin, correction, surpris et pas surpris. Par contre, ouais, comme tu dis, sa voix, elle est géniale, quoi. Elle est géniale là-dessus. C'est sûrement là où la voix est la plus extrêmement intéressante. Alors du coup, tu m'as titillé, je vais aller écouter Antenna tout de suite après, bien sûr, même si tu dis qu'il est mauvais.
Bon, y a des trucs qui sont bien sûr. Je me souviens que quand Erita McDye avait fait une reprise de Kevin, parce que il avait fait un échange, les deux groupes avaient fait un échange de chansons pour dans le cadre d'une émission. Donc Erita McDye avait repris un morceau de Kevin et puis Kevin avait repris un morceau de Erita McDye. Bon bah le morceau qu'Erita McDye avait repris c'était le morceau Stained Silver qui est sur l'album Antenna. Donc il y a des gens qui aiment hein, mais je trouve vraiment là, enfin moi j'ai une tendance à écouter, enfin généralement à écouter mes albums voilà du début jusqu'à la fin. Nous quand oui. À la moitié des morceaux qui sont pas ouf, ça aide pas trop à apprécier. Mais voilà, c'est les morceaux qui sont bien, ils sont quand même ok quoi. Mais je trouve que par rapport au reste de la discographie de Kevin, pour moi c'est le celui que j'écoute jamais en fait, parce que il ouais. y a pas assez de morceaux qui m'intéressent et même les morceaux qui m'intéressent en fait c'est typiquement le disque que j'ai réécouté uniquement parce que j'ai fait une rétrospective Kevin et que j'ai voulu tout réécouter pour me remettre bien dans l'idée, tout ce qui avait été fait. Et voilà, c'est tout. Je me suis un peu forcé à l'écouter, je l'ai en CD à la maison, mais parce que, voilà, par complétisme pur, quoi. C'est vraiment uniquement parce que, voilà, bon, voilà, je veux pas éviter de pas... Je veux pas ne pas avoir ça, et puis je l'ai acheté de case à genre 5€, tu vois.
C'est dur le complétisme. Hein.
C'est dur le complétisme, mais voilà, quand c'est ton groupe favori, bon voilà, tu les as tous quoi, même les plus pas top quoi. Je sais pas quel exemple on pourrait avoir pour les Rolling Stones ou les Beatles quoi, mais
oula. Globalement, Rolling Stones t'as de la place.
Ouais hein. Voilà, il y a des trucs. Je pense que les complétistes ils font genre bon ok, je prends celui-là, mais genre le nouveau ouais, Rolling Stones, je sais pas ce que j'en ai. Je sais qu'il est sorti, mais j'en ai pas du tout entendu parler quoi. Alors que
bah non, moi si, moi je l'ai déjà entendu plusieurs fois.
Ouais. Et alors
non, chez nous. Et alors alors quoi. C'est pas la révolution.
Oui, mais est-ce que c'est nul?
Nul non, bon, parce bah, voilà, qu'ils sont, ça, ils ont trop d'expérience. Et ils sont trop bien entourés pour faire de la merde.
D'accord. Ah, ça va. Bah bon.
Non, si tu veux, dans le sens, mais ce serait bien que ce soit le dernier, quoi.
Ouais, bon.
Tu vois. Parce qu'à mon avis, ils arrivent au bout de leur... pour moi, depuis Striped,
ouais.
Comment il s'appelait, et la tournée qui avait suivi, ils sont dans une espèce de forme de répétition, réadaptation, mais plus, il n'y a plus vraiment de... Il n'y a plus de choses nouvelles depuis, quoi, mais... Bon, et du coup, moi, pardon, pour en revenir à Kevin, là où je le trouve finalement extrêmement intéressant, c'est que ça donne une bonne idée de l'évolution du son qu'amènera Heavy Pendulum, je trouve.
Oui, oui, bah, ça fait partie des ingrédients, hein, c'est clair. Hein.
Ouais.
Après, il y en a encore plusieurs albums après, mais oui, oui, ça fait partie des trucs...
Tu sens les racines et les trucs qui vont sortir derrière, et j'adore ça. Pour ça, je le trouve encore carrément génial, mais... Ce EP. Alors par contre, ça m'a vachement surpris que ce soit un EP, parce que je trouve qu'il démarre Enfin, quand il démarre, t'as envie qu'un album complète ça, quoi. Donc,
il est quand même assez long, hein, pour. En fait, par rapport à la durée maintenant, d'albums qui sortent, qui font à peine une demi-heure, ou même, de toute façon, voilà, il y a des albums, déjà des albums bien avant qui faisaient qu'une demi-heure. Bon, voilà, je pense qu'il est vraiment aux alentours de ça, quoi. Mais c'est parce que, voilà, il y a 6-7 morceaux et que, bah, généralement, il mettait une dizaine, quoi.
Il fait 29 minutes.
Ouais, voilà, donc on passe. Voilà, mais Rainy Blood aussi, il faisait 29 minutes, hein, c'est pas un EP pour autant, donc bon. Il est estampillé tel quel, c'est leur choix, c'est tout. Hein. Mais je trouve qu'il il fonctionne très bien. D'ailleurs, sur Tidal, par exemple, il est classé dans les albums. Il n'est pas dans les EP.
Ah ouais, c'est vrai. Tiens,
mais
oui,
parce
du coup,
que
ça
je pense
pas,
qu'ils
oui.
font ça, ils font pas. Il y a des chances qu'ils le fassent un peu automatiquement. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas la durée, en fait. Ils regardent juste, genre, bah, okay. Il y a combien de morceaux. Bon, bah voilà, ça passe là ou ça passe pas là.
Ouais, c'était donc ta première reco, c'était l'EP de 2002 de Kevin qui s'appelle Tides of Tomorrow. Maintenant, on va parler de ta deuxième reco. De toutes tes recos de ce soir, c'est celle qui m'a le plus surpris. Parce que je m'attendais... Alors, qui m'a le plus surpris. Ouais, c'est ça, qui m'a... Parce que je m'attendais pas du tout à ce type de son. Et c'est donc Kiefer pour le It's Ok Be You.
C'est le disque de 2023 de la sélection. C'est le seul qui est le plus récent du lot. C'est toujours un disque très champêtre, hein, pour le coup. Vraiment, très on chill en famille. Alors, on chill en famille qui écoute Radio Nova. Hein, j'imagine que la famille conservatrice qui écoute Michel Sardou, ça passera forcément un peu moins bien. Ils vont dire genre, mais non, c'est pas possible. Mais en vrai, c'est vraiment très 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 reposant. Donc, Kiefer, c'est un producteur, musicien, enfin claviériste, qui est accessoirement membre du groupe de tournée de MNDS Gen, qui est un producteur aussi, qui est aussi signé chez Stone Throw et qui fait un truc de peu près dans le même genre, c'est-à-dire qui vient de la scène du beatmaking. Mais qui fait des instrus qui sont très funky, très jazzy, ce genre d'atmosphère. Et donc du coup, c'est vraiment un disque qui est totalement dans la droite lignée de ce genre de sonorité. Donc Herbie Hancock, J. Dilla, Thundercat, on est un peu dans ce triangle là. Et c'est pas le triangle des Bermudes, hein, c'est vraiment le triangle de la bonne vibration, vraiment super relaxant. C'est, je trouve, pour moi, le disque que... Alors, pas qu'aurait dû être, mais quand je parlais du disque que tu avais suggéré il y a quelques émissions où on passait dans plein de directions différentes et que ça cherchait un peu à faire de la musique de film, mais en même temps, à chaque fois, ça cherchait à essayer de créer ou de reprendre des codes de différentes... De différents styles. Donc, c'était pour le disque de Moderator, donc l'album Escape. Je trouvais justement que ce disque, il avait comme défaut en fait, de vouloir trop en faire, aller dans trop de directions différentes, alors que Kiefer, pour moi, c'est l'exemple type qui a vraiment bien compris. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de s'éparpiller, en fait. Il est vraiment totalement dans le côté funky, le côté jazzy, et il reste ça sur ça pendant 40 minutes, sur une quinzaine de titres. Et... l'album est vraiment, vraiment extrêmement cohérent, extrêmement calme. C'est, moi, typiquement le genre de son que je trouve vraiment ultra agréable et que j'ai pris vraiment un peu par surprise tout de même parce que je ne m'attendais pas... J'avais écouté un peu ce qu'il faisait avant, j'avais vraiment trouvé ça très, très banal et j'avais pas accroché ou j'avais trouvé ça juste, voilà, un peu bof. Et en fait, il y a Dibayez, qui est un producteur que je suis pas mal, qui du coup va ouvrir pour lui sur quelques dates aux États-Unis. Et donc du coup, comme il ouvrait, c'est un artiste que j'aime beaucoup, je me suis dit je vais revenir sur Kiefer, puis je vais tester un peu. Et quand l'album est sorti, j'ai vraiment pris pas une bonne claque, mais je me suis vraiment laissé porter. et je me suis vraiment laissé convaincre simplement parce que à la fin de la première écoute, je suis resté avec un feeling tellement, tellement positif que quand j'avais besoin de me remonter le moral ou de passer quelque chose qui soit évidemment calme et agréable, en fait, j'en venais naturellement vers cet album, en fait. Donc c'est vraiment un truc qui est vraiment rentré très discrètement dans mes écoutes et qui s'imposait naturellement au fur et à mesure, disant genre, ouais, pourquoi pas écouter ça. Donc je l'ai en disque, je l'ai acheté, et depuis que je l'ai, voilà, il revient à peu près tous les deux jours dans ma playlist, quoi. C'est vraiment sans faute, il n'y a pas de souci et je m'en lasse pas. Donc c'est vraiment un truc très très agréable, très très simple en termes de composition. Après, ça a beaucoup de feeling. C'est des compositions qui sont basées toujours sur... c'est des boucles, en fait. Et après, il pose du clavier dessus, mais c'est presque... Je pense qu'il improvise, quoi, au clavier. Et j'imagine qu'en live, il y a beaucoup de libertés qui sont prises, parce que les morceaux peuvent facilement tourner pendant beaucoup plus longtemps en concert que sur disque.
Ouais.
Un morceau de 3 minutes peut facilement se transformer en 6, parce qu'il y a largement de quoi faire pour que si t'as même juste des boucles, que tu improvises plus dessus, ou que juste que si t'as un ou deux musiciens avec toi. Genre, hier soir, je suis allé voir McKinley Dixon, qui est un rappeur, et en fait, sur scène, il avait avec lui un claviériste et un guitariste bassiste, qui est son producteur, en fait, et qui, du coup, alternait entre les deux instruments, et avait avec lui un laptop, donc il gérait les boucles de batterie dessus. Et rien qu'à E3, en fait, alors que sur disque, il y a un groupe, quoi. Là, à E3, ils géraient super bien, il y avait vachement, vachement de facilité à improviser, à rajouter des petites touches en fonction de comment les musiciens s'accordaient. C'était vraiment, vraiment super. Et Kiefer, je pense qu'il peut faire exactement la même chose. Il n'a pas tant que ça besoin de musiciens avec lui. Il emmène un ou deux personnes avec lui, et puis c'est emballé, c'est pesé, quoi.
Là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est... C'est hyper agréable, il y a une sensation de simplicité, d'écoute et tout. Mais là où je retourne un peu le truc, c'est tellement simple que ça doit être extrêmement travaillé et réfléchi pour être, entre guillemets, aussi simple. Et je pense que c'est un énorme travail, au final.
C'est
pas simple. Oui, là, voilà, tu as raison, c'est le mot, c'est épuré.
C'est juste des compositions où il est allé vraiment à l'essentiel à chaque fois. Et ça marche bien, mais en même temps, c'est le cas quand t'es musicien de tournée. Hein. Si à la base, tu dois servir les intérêts de quelqu'un plutôt que ta propre musique, faut pouvoir apprendre à pas forcément mettre son ego derrière soi, mais en tout cas, savoir s'adapter, quoi.
Il n'y a pas de gras, ouais.
Voilà, et quand t'es capable de faire ça, après, t'es capable de faire des compositions qui vont peut-être aller plus vers ce qui va être le plus facile. C'est pas le plus évident, parce que pour le coup, en fait, c'est ça qui est bien avec ce disque, c'est qu'il est pas forcément évident, mais en même temps, il a quelque chose de très ronronnant, mais dans le côté positif, quoi. Ronronnant dans le côté le chat qui ronronne à côté de toi et qui t'amène de la plénitude, en fait. C'est vraiment, vraiment un super disque de ce point de vue-là, et c'est pour ça, en fait, je pense que j'y reviens aussi facilement, c'est que... Il y a cette capacité à tourner en boucle facilement, alors que je rapprocherais dire aussi de la musique de jeux vidéo. J'ai fait une petite chronique pour de Zisk et je le rapprochais un petit peu de Kirby, par exemple, la musique de Kirby Dreams Land, ou des musiques de Yuzo Koshiro quand il faisait de la musique pour...
L'ouverture sonne très... Sur, tu l'as dit, beatmaker, mais surtout 8 bits du début des jeux vidéo. Hein, le premier morceau, le I Could Cry, je crois que c'est ça, ouais. Elle sonne vraiment... au début, je me suis dit, tiens, c'est du beatmaker, puis après, bon, c'est bien plus riche, ça part beaucoup plus loin. Mais moi, je suis d'accord avec toi, il y a une ambiance, film, jeu, en ambiance un peu, je dirais, point and click ou aventure, pas bourricot.
Vieux jeu de plateforme, jeu avec des musiques qui devaient tourner en boucle, mais parce que c'était aussi ça la marque des jeux vidéo japonais à l'ancienne, quoi, qui ont beaucoup influencé, je pense, tous les genres de musique, Thundercat en particulier, mais Next Gen aussi, hein, mais plein d'autres comme Flying Lotus, C ou Tokimonsta, c'est des compositions, en fait, qui prenaient tellement... qui prenait tout l'avantage des limites des cartes graphiques et des cartes des limites sonores en fait, pour aller directement à genre, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, quel instrument on peut recréer, quelle qualité sonore on peut avoir pour que ce soit le meilleur, mais en même temps limité sur ce qu'on a, quoi. Et de ce que j'ai cru comprendre, il y a plein de petites techniques qui ont été créées à cette époque-là sur les jeux Super NES, Super Nintendo, Mega Drive, pour pouvoir permettre d'avoir une excellente qualité sonore, alors que tu te trimbalais sur des cartouches, quoi. Et ce n'était pas évident. Et beaucoup, beaucoup des bandes-son des jeux vidéo à cette époque sont restées cultes, en fait, parce que justement, elles ont tellement bien utilisé toutes les capacités techniques des machines, que même quand tu créais des musiques qui étaient simples mais qui tournaient en boucle, ben tu finissais par les retenir, mais en 2-2, parce que c'était des hits, quoi, pratiquement. Donc, tout le monde connaît au moins deux morceaux de la BO de Street Fighter, deux pour rien, pas pour rien. C'est vraiment des morceaux qui fonctionnent super bien. Et je pense que Kiefer, c'est clairement le type de musicien, voilà, il doit être un peu plus 25-30, tu vois, comme je donnerais comme tranche d'âge. Clairement des gens qui ont été bercés par ce genre de sonorité, et ça se ressent aussi dans la musique qu'ils créent, quoi.
C'est vraiment une super découverte, vraiment les deux grosses surprises. C'est la première des deux grosses surprises de ta sélection pour moi, là. J'ai vraiment surkiffé. C'est direct, moi je me suis déjà écouté déjà au moins du coup deux fois maintenant, trois fois presque, donc je me suis mis dans l'atelier. Je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose que tu remets
surtout c'est le genre de disque qui ne choquera personne, je pense. C'est vraiment, tu peux le mettre en fond sonore, les gens qui prêtent attention trouveront ça bien, et ceux qui prêteront pas attention ne seront pas nécessairement offensés par ce qui passe dans leurs oreilles, ils iront genre
oui, c'est pas faux.
Il y a d'autres exemples dans la playlist qui sont un peu plus radicales.
Ouais, tu veux qu'on parle de la troisième recommandation, par exemple, de celle qui arrive maintenant, Wolf in the Throne Room de Two Hunters.
Alors non, c'est l'inverse. Two Hunters, c'est le nom de l'album, et donc le groupe, c'est Wolves in the Throne Room. Alors c'est un disque extrêmement champêtre, hein, pour le coup, hein, le black metal, je dis ça sans aucune ironie du tout, hein, le black metal c'est extrêmement champêtre, ils prennent toujours des pauses dans les forêts et tout, c'est pas pour rien. Donc
oui,
là on est...
La pochette est un chef-d'œuvre.
La pochette elle correspond, je trouve, très très bien à ce qu'ils font, quoi. Alors la pochette du premier album juste avant The Name of 12 Stars, c'était une forêt un peu glacée, là, pochette un peu genre bleu grise, qui était d'ailleurs très 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 belle et qui était un très bon album. Mais Two Hunters, voilà, c'est le disque de ce qu'on a appelé maintenant le black metal cascadien. Alors cascadien parce que pas
cascadien.
Alors j'ai toujours pensé que cascadien c'était une référence au côté un peu cascade, parce que j'avais toujours un peu l'impression justement d'une cascade avec la manière dont le son est géré. Et en fait pas du tout, c'est une référence géographique à l'écosystème qui est la zone pacifique nord-ouest, où se trouve justement l'état de Washington, et d'où provient Wolves in the Throne Room, donc un groupe américain. Et en fait le black metal cascadien, en fait c'est toute une scène qui, ou en tout cas un son qui s'est établi dans cette zone des États-Unis, parce que traditionnellement le black metal c'est quelque chose de très très nordique. Donc ça a commencé en Norvège, il y avait des groupes en France après, mais du coup c'était quand même très très européen. Et les Américains sont arrivés un poil plus tard dans le black metal jeu. Et le disque qui a vraiment été fondateur, c'était l'album Dead as Dreams de Weakling. Alors qui n'est pas du tout champêtre pour le coup, qui est beaucoup plus, qui a un son beaucoup plus torturé, presque un peu plus nordique. Mais qui avait quand même déjà les prémices de ce qu'on pouvait entendre après dans Wolves. Et en fait, Wolves in the Throne Room, il y a des éléments un petit peu post-rock, ce qu'ils font, Il y a un côté très... alors c'est très épique, mais en même temps, pour moi, c'est très aérien. Ils ont un côté qui justement correspond bien à l'atmosphère de l'exploration de la forêt. Alors plus en soirée, hein, si on revient sur l'analogie de la visite en famille, c'est plutôt le... c'est plutôt pas trop la visite en famille, mais plutôt le disque qui te donne envie d'aller couper du bois au fond de la forêt, en fait.
à la tronçonneuse.
Non, justement pas. Pas à la tronçonneuse.
Non, t'as raison.
À la hache. À l'ancienne. Parce que, voilà, il y a un côté alors pseudo-traditionnaliste avec Walls in Autumn, parce que ils ont beau avoir une esthétique basée sur le fait que, genre, oui, on vit en forêt, blablabla, genre, bah ouais, mais bon, vous avez une guitare électrique et vous faites des tournées dans le monde, les gars, donc foutez pas de notre gueule, quoi. Vous êtes pas isolés du monde, quoi. Mais toujours est-il que quand ils ont fait leur tournée, ben, c'était cette année, ouais, quand je les ai vus au Roadburn, pour la énième fois, parce que c'est un groupe qui tourne quand même pas mal. Je crois que l'an dernier, je les ai vus une fois l'an dernier, je les ai revus, j'ai dû les voir au moins 6-8 fois dans ma vie, je pense. Et peut-être même plus, je sais pas. Mais la dernière fois, ils avaient des projections derrière eux, et c'était des projections de. Avec. La visite en forêt, les petites rivières sauvages. Alors, t'avais pas les animaux de la forêt, en revanche, t'as pas eu un gros plan sur un écureuil qui passe, qui fait genre. Non, quoi. Bambi à la rigueur. plus, voilà, hein, bon, peut-être éviter les loups dans le black metal, c'est ça l'ambiance. Ouais. Mais voilà, les loups, on vous respecte, mais dans le black metal, c'est peut-être une association assez malsaine. Pour autant, pas dire que c'est des trucs que les fachos ils aiment bien. Mais bon, du coup, eux là, c'est plutôt le côté, voilà, on est dans la forêt et tout, on est content. Donc, Walls, je trouve que c'est justement très très champêtre, très très bucolique. Et je trouve pas que ce soit, justement, contrairement à beaucoup de disques de black metal qui essayent de se la jouer très evil. Et d'ailleurs, Wolves in the Room, je trouve que sur leurs derniers albums, ça devient un peu plus, voilà, un peu plus black metal à l'ancienne. Ce qui est plus ou moins agréable. Alors que là, sur Two Hunters, il y a un côté très, en fait, presque très positif, en fait. C'est vraiment très apaisé comme musique. Ça a beau jouer, voilà. Il y a des blasts, il y a du trémolo, le chanteur il fait blablabla, mais c'est un tout en fait qui est beaucoup plus apaisant que beaucoup de disques de black metal, et qui se rapprocherait à la rigueur plus en fait de ce que faisait Dark Throne sur leur deuxième album, sur Transylvanian Hunger. Donc c'est ces disques en fait où la production était tellement un peu crasseuse ou en tout cas minimaliste que ça crée un tout, en fait, t'avais pas forcément de la facilité à distinguer les instruments des uns des autres, mais ça crée une vague sonore assez cohérente. Et Two Hunters, en fait, bénéficie un peu de cette qualité-là par moment, mais réussit aussi à trouver des moments beaucoup plus calmes, avec, voilà, où tu t'en pourrais entendre derrière le petit son de la rivière de l'eau qui s'écoule au sein de la forêt. C'est vraiment un disque que moi je trouve très apaisant et qui pour moi correspond bien à cette atmosphère là, même si effectivement voilà, c'est quand même un poil plus agressif que Kiefer et que Kevin, mais on est encore dans le thème, je vous le jure.
Ah non, mais je me suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est un album pour du black metal qui est incroyablement facile à écouter, qui a une force d'imprégnation et de porter ton état d'esprit vers autre chose, de t'emmener vers autre chose, que je trouve très très fort. Je ne connaissais pas du tout. Là, pour le coup, je découvre l'Arcadien, Cascadien. J'ai découvert que c'est un mouvement quand même assez ouf, assez sympa, pour le coup. Sans grand de trucs, mais qui est vraiment très très... Enfin, je trouve ça vraiment rigolo, et je trouve, pour le coup, ouais, vraiment là, cet album, parce que du coup, j'ai été écouter Black Cascade.
Le suivant, ouais.
Ce qui est celui du suivant, que je trouve qu'il y a moins ce côté qui est plus black justement, mais qui est vraiment tout en temps, ouais. C'est un meilleur équilibre, je trouve, comme tu dis, qui est plus simple d'abord, plus simple dynamique. Je trouve qu'il y a plus, finalement, il est plus
ouais,
riche.
J'ai jamais voilà. réussi à vraiment entrer dans Black Cascade par la suite. Ouais,
ouais, donc il n'y a pas que moi, ça me rassure.
Je l'écoute très régulièrement. La tournée de cette époque-là, je me souviens que j'avais bien aimé les morceaux sur scène, mais je trouve que les mélodies ressortent moins bien en fait. Ce qui est assez tristoun parce que globalement, je trouve qu'il y a, un gros potentiel sur ce disque. Peut-être qu'il était, s'il était mixé un peu différemment, il fonctionnerait peut-être un peu mieux. Mais après,
ouais,
je pense que c'est un disque que j'achèterais peut-être un jour en vinyle en fait, juste pour pouvoir le mettre sur des bonnes enceintes et en profiter bien parce que j'ai toujours un peu de sympathie pour ce disque, même si c'est vraiment pas celui sur lequel je me porte en fait quand je réécoutais Walls in Notre Dame. Et d'ailleurs sur scène, je crois qu'ils comprennent plus grand chose de Black Cascade. En revanche, des morceaux de Two Hunters, on a toujours. Ce qui était d'ailleurs assez rigolo parce que Roadburn, du coup, ils avaient annoncé leur set comme étant un peu exceptionnel. Bon, je les avais vus l'année d'avant, il y a enfin, quelques mois de différence, même pas 6 mois de différence. Bon, la setlist était absolument identique à ce qu'ils avaient fait ailleurs. Tu vois, genre, à part la projection où on voyait les marmosets dans le fond de la forêt, t'avais zéro différence. Donc, pour le coup, ils avaient un peu, je trouve, arnaqué le Roadburn en mode genre, oui, on fait un événement, genre, oui, on aura des projos avec des images de documentaires BBC. Genre, ah, cool! Trop bien!
C'est pas mal déjà.
Deux, voilà, c'est pas autant l'esfourberie que le concert de Mayhem qu'ils avaient fait au Hellfest. Où ils avaient annoncé que ça va être un grand rituel et tout, et donc les gens s'étaient précipités en mode genre oui, ça va être ouf. Et en fait, bah, ils avaient ramené un vrai crâne sur scène, et puis voilà, c'est tout. Ils avaient fait leur musique. Et déjà, ouais, c'est un vrai crâne. J'ai pas vu, mais on a rien à foutre en fait. Ça a zéro intérêt.
Si encore c'était celui de ton manager, ouais, je dis pas.
Mais... J'étais pas là à ce moment-là. J'étais pas allé voir ça. Mais Yem, ceci dit, en concert, c'est tout à fait sympathique. Hein. Mais bon, ils ont plus de sinistre mémoire quand même. Ils ont un peu ils trimballent un peu des casseroles pour être gentils. Mais Wolves, en revanche, non. D'ailleurs, pour moi, ça m'avait fait marrer, mais un peu aussi fait pleurer. Quand il y avait eu pendant la pandémie, tu te rappelles les carrés noirs qui avaient été postés par tout le monde quand il y avait eu quand l'industrie musicale avait fait soutien au mouvement Black Lives Matter en mettant des carrés noirs, donc l'effort surhumain qui avait été fait par beaucoup d'artistes. Bon bah voilà, c'était voilà de la performance, mais je me souviens très bien que Wolves l'avait fait et ils avaient eu une tonne de commentaires négatifs, notamment de mecs français qui disaient genre « Oui, vous êtes influencés, qu'est-ce que c'est que ça? Vous soutenez les casseurs ?» J'étais genre « Waouh !» Il vous faut genre 3 fois rien. Comme quoi, des fois, le performatif, du coup, ça fait sortir les abrutis. Hein, c'était le seul moment où je me suis dit genre « Ah ben en fait non, ça a du bon, en fait, parce que tu vois les groupes qui font le minimum syndical. » Et tu vois aussi des fois les fans qui supportent pas le minimum syndical, quoi. Donc ça veut un peu tout dire sur le degré de comment dire le degré de tolérance dont certains sont capables. Mais en tout cas, Walls, bah voilà, c'est un très bon album de 2007, hein, donc qui est d'ailleurs maintenant c'est un album assez classique, hein, pour dans le domaine. Donc si vous jamais voulez découvrir un peu les origines de ce que le black metal américain a apporté à la scène, de manière générale, à la scène internationale, c'est clairement le disque à écouter.
Ouais. C'était donc Wolf in the Throne Room pour leur album Two Hunters. Et donc, maintenant, ma deuxième grosse surprise, parce que là, pour le coup, je m'y attendais absolument pas, c'est donc la BO de The Wicker Man de Paul Giovanni. Beneath the moon's unclouded light, I held a while to Annie. The time went by with careless heed, till tween the late and early. With small persuasion she agreed to see me through the barley. Corn rigs and barley rigs and corn rigs are bonny. I'll not forget that. Je vais reprendre la main, et alors là, je veux vraiment que tu me dises pourquoi.
Bah, parce que c'est le disque champêtre par définition, mais c'est le disque champêtre du voyage en famille, sauf que ça se passe mal.
Ouais, ok, d'accord, bah, on est d'accord au moins, oui.
Alors, la raison pour laquelle j'ai pris The Wicker Man, en fait, c'est qu'à la base, quand j'ai pensé à la question, à la thématique familiale, pour essayer de varier un petit peu le type d'atmosphère, parce que je voulais pas faire un truc familial, justement, bah, trop facile, quoi, ou juste... c'est bah tout se passe bien tralalala. Je voulais faire quelque chose en fait qui varie un petit peu, et il y a un film récent en fait qui correspond bien à la thématique de la famille, c'est Midsommar. Et en fait bah moi j'aime beaucoup la BO de Midsommar, elle est très très bien, mais en même temps en termes d'atmosphère ça faisait pas très champêtre en fait, c'est juste champêtre parce que bah le film se passe dans un décor champêtre, mais la BO en elle-même pas tant que ça. Donc du coup, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, bah en fait, l'exemple type de ce qui est de ce, enfin du genre dans lequel Midsommar se place, c'est la folk horror. Et qu'est-ce qui est fondateur dans la folk horror? Bah c'est Wicker Man. Du coup, bah j'ai mis la BO de Wicker Man que j'avais pas écouté, bah parce que je connais juste le film, j'ai vu le film, mais j'avais pas écouté la BO. Et en fait, dès les premiers morceaux, je me suis dit, genre, bah voilà, on est dans le village. Alors bah Wicker Man, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un film d'horreur folklorique. Qui est sorti en 1973 et qui parle d'un policier écossais qui est chargé d'enquêter sur la disparition d'une petite fille. Et pour ce faire, en fait, il va se rendre sur une île où réside une communauté qui est menée par Christopher Lee.
Donc, on dit déjà pas... de base.
Voilà, donc on ne dit pas plus. Après, bon, voilà, maintenant la fiche du film, je pense, est très connue. En plus, le remake avec Nicolas Cage est très connu aussi, alors pour de mauvaises raisons, parce qu'il est vraiment horrible. vraiment, alors pour le coup, n'allez surtout pas voir le remake de Nicolas Cage, même pour rigoler.
Parce je suis que, d'accord.
Pour le coup, il est chiant à mourir, et les meilleurs extraits sont ceux que vous trouverez sur Internet, sur YouTube. Donc si vous voulez rigoler, mettez les extraits sur YouTube, où voilà, Nicolas Cage colle une mandale à une actrice déguisée en ours, ou quand il saisit la poupée brûlée, il répète voilà, comment ça se fait qu'elle est brûlée, genre c'est voilà, c'est tout est dedans, il y a rien de plus. La meilleure anecdote en fait autour de The Wicker Man, le remake, c'est le fait qu'ils aient remplacé un élément du scénario d'origine du film, qui était que le personnage principal dans l'original est vierge, donc il n'a pas eu de relation sexuelle. Et dans le remake, ils ont décidé que c'était pas crédible, dans les années 2000, qu'un homme d'une trentaine d'années pouvait ne pas avoir de relation sexuelle. Et du coup, ils ont remplacé ça par une allergie aux abeilles. Donc voilà, c'est le niveau.
J'ai oublié ce détail.
C'est magnifique parce que t'as vraiment plus à chaque fois que je repense à ça, plus je me pose la question de savoir qui est-ce qui a songé que ces deux choses pouvaient être équivalentes en fait. De dire genre bon alors il veut pas qu'il ait une relation sexuelle, comme si c'était impossible, chose qui est genre ok, genre d'accord, vous avez peu d'expérience du monde donc, du coup. Et par rapport à ça, genre bon alors à la place on va prendre une allergie aux abeilles. Bon. L'original est très bien, en revanche, c'est un excellent film, donc je vous encourage vraiment à le voir. Mais la BO est tout aussi cool. Donc elle est composée par Paul Giovanni, qui est un musicien qui n'a pas fait grand-chose, malheureusement, parce qu'il est cédé du virus du sida dans les années 90. La BO, d'ailleurs, a été éditée en édition physique bien après son décès. Elle est sortie en 98, donc, alors que c'est un film de 73. Et elle est interprétée par un groupe qui s'appelle Magnet, qui a été fondé en fait pour l'occasion. Donc c'est plein d'autres musiciens qui sont dedans, mais j'ai regardé, il y a pas grand monde que, enfin en vrai, il y a personne que j'ai vraiment, enfin que dont les noms m'a rappelé quelque chose ou même qui était associé à quelque chose de connu. Ça reste du très 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 belle BO, très folk. Alors avec des morceaux qui vont aller donc plein d'atmosphères différentes, mais qui resteront alors. Soit on est dans quelque chose de très joyeux, comme par exemple The Landlord's Daughter, qui est vraiment la chanson de bar par excellence, quoi, qui est vraiment magnifique, pris à plusieurs voix et repris en chœur. C'est vraiment le type de musique parfaite que tu mets dans une soirée, avec bon, par contre, des gens qui sont peut-être un peu plus éméchés ou en tout cas plus enclins à chanter, quoi. Et tout le monde peut reprendre ça en cœur, hein. C'est un très beau morceau à reprendre un beau morceau de fête. Après ça, il y a des morceaux qui sont beaucoup moins plus sur la fête, même si bon, bah, dans The Wicker Man, la fête continue en fait. Mais ça dépend de quel point de vue on se place en fait. du point de vue du personnage principal, c'est moins la fête, mais bon, du point de vue du reste de l'habitation, la fête elle est toujours plus folle, hein, et puis voilà. Hein. sans chopomi ni rien, ils y vont. Donc, c'est une BO qui a un côté très un peu menaçant, mais très légèrement menaçant, en fait, parce qu'il y a toujours ce côté très culte, et culte dans le côté, justement, atmosphère religieuse, puisque là, tout est centré autour des croyances qui sont tenues par les habitants de cette île. Et je trouve que l'album est vraiment, je trouve, la définition même de ce qu'on peut appeler par le folklorique, puisque on passe de morceaux qui ont des thématiques très paysannes, comme Crown Rigs, où tout va bien, on fait bon vivre, et puis des morceaux où on va entendre plus une procession solennelle avec justement quelque chose d'un peu plus, pas macabre, mais un peu plus, comment dire, un peu plus sombre, j'ai pas d'autres mots qui viennent à l'esprit, mais on va tout le temps rester dans cette atmosphère de village. On reste tout le temps dans cette atmosphère où on est vraiment à l'extérieur. Il y a un peu ce côté-là, justement, dans la thématique que tu m'as proposée, c'était une thématique aussi qui demande l'évasion, la sortie dans un univers très différent. Et pour le coup, The Wicker Man, c'est un film sur une communauté qui est vraiment déconnectée, quoi. C'est-à-dire élément aussi de ce qui fait le charme de Midsommar. Hein, c'est la même dynamique de des gens arrivent dans une communauté et qui est totalement déconnectée et qui est tenue par des règles très strictes, mais qui continue de suivre ces règles, vaille que vaille. Et Wicker Man, il y a toujours cette même, enfin c'est ce qui a fondé ce qui fait le charme du folklore, c'est que tout le monde est content en fait, mais sauf toi. c'est ça qui cause le problème. C'est vraiment, je trouve, l'horreur d'ailleurs de la folklore, ce qui fait tout son charme, je trouve, c'est le fait que tu vas être dans un environnement où les gens, dans lequel les personnages principaux arrivent dans un environnement où tout va bien, en fait. Et le problème, c'est que tout va bien, justement. C'est que tout va trop bien et que tout le monde a l'air trop content d'être là. Et tu es genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tous si convaincu que vous êtes dans le bon, que vous allez dans la bonne direction? Et généralement, c'est là où les problèmes commencent. Et la BO, j'en trouve. Et alors bien sûr, comme je disais, c'est BO champêtre, mais ça se passe mal. Mais c'est aussi ça, l'évasion dans les villages et tout. Des fois, ça se passe pas bien.
Je trouve surtout que techniquement, elle est assez impressionnante au niveau de l'ambiance et d'une espèce de côté gaélique.
Gaélique germanique, je trouve.
Germanique, oui. Je me suis arrêté parce que je trouvais chercher le mot.
Non, mais en
c'était
fait,
pas
je suis
le
d'accord.
Mot juste.
Non, mais gaélique, je suis d'accord. En fait, pour moi, j'ai l'impression que la BO The Wicker Man, elle est un peu entre les deux, le côté un peu soit irlandais, soit germanique, en fait.
Ouais.
T'as l'impression que c'est. Elle est perdue entre les deux.
Ouais, elle sonne folklorique, mais en étant, tu sais qu'elle est faussement folklorique parce que c'est pas de la. Il y a un tas de choses, et c'est vrai qu'au regard du film, qui est avec son twist final qui est complètement pété du plomb, pété du casque, mais qui est génial en soi. Hein.
Ah, qui est fantastique. Et qui est toujours aussi, honnêtement, je me souviens, j'avais pas peur parce que je savais très bien quelle était la conclusion, mais n'empêche que c'est. Puis la performance de l'acteur est juste parfaite. D'ailleurs, la phrase culte de l'acteur à ce moment-là est gardée dans la BO. C'est une des seules phrases, Oh Jesus Christ! c'est la phrase du personnage principal. Et d'ailleurs, qui est juste parfaite dans son rôle, hein, qui est juste totalement ultra juste, mais qui est juste terrifié, quoi. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de très macabre à la fin. Tu fais, mais c'est crasseux. Même si tu sais ce qui se passe, même si tu sais ce qui va se passer à la fin, il y a quand même quelque chose de genre, non, c'est horrible. C'est d'ailleurs pour ça que le remake est vraiment, vraiment naze, en fait. C'est que, ça tourne à la blague, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est très triste, parce que je suis sûr que Nicolas Cage, il est allé faire sourire les mecs là parce qu'il pensait que ça allait être bien, quoi. Parce que je suis sûr qu'il kiffe l'original.
Il a pris son chèque, il était joué, il a été joué à fond comme il aime.
Non, mec, il a récemment fait Renfield juste parce qu'il pouvait jouer Dracula. C'est clairement le type d'acteur qui accepte des rôles en disant genre, ouais, ça va être, on fait le remake de ça. Ouais. Non, ouais, il a une vraie culture ciné, Cage.
Alors. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il est, il a une énorme culture ciné, je pense aussi qu'il adore faire n'importe quoi, il joue
alors,
tourner
absolument
dans des
pas.
Films pourraves.
Alors je suis désolé, c'est absolument faux, alors là pour le coup, time out, vraiment tu dis de la merde, Cage quand il fait des films pourraves c'est justement parce qu'il avait des problèmes de thunes, et c'est vraiment évident, genre par exemple le truc qu'il a fait il n'y a pas très longtemps, où c'était, il était payé pour aller juste taper des types déguisés en marionnettes,
Ah, juste,
voilà, c'est nul à chier.
Il est ouf, ce
c'est
film.
Un très très mauvais film où justement il dit rien justement parce que voilà il a filé son tarot et le mec on fait genre on n'a pas assez de thunes, est-ce qu'on pouvait vous payer moins si vous n'avez pas de réplique à apprendre, il a fait genre ok d'accord, mais juste parce que bah, il a des traites à payer quoi. Là pour le coup c'est clairement un film qu'il a fait pour mettre de l'argent dans la machine. Maintenant il est plus à ce stade-là, justement. Il est sorti de cette phase-là. Et il peut vraiment tourner des films juste voilà, parce qu'il fait scénario. D'ailleurs, j'ai pu voir tout récemment Dream Scénario, le tout dernier film qu'il a fait,
Ouais.
voilà, qui sortira l'an prochain. Et ça, il est mais exceptionnel dedans. Juste, mais parfait. Vraiment, mais à top de son game. Tellement, tellement bien. Vraiment, enfin, un film nous encourage vraiment à aller voir la bande-annonce. Et surtout aller le voir au Cinoche, c'est très drôle, mais il est pas drôle parce que Cage, genre, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il y a des.
C'est pas parce qu'il est ridicule, c'est parce qu'il joue bien.
Mais voilà, mais Cage en fait.
Mais c'est un grand acteur pour moi, faut pas oublier
c'est un
qu'il
très très
a,
grand acteur.
il a un, os... il a un Oscar dans mes souvenirs.
Oui, mais enfin, je m'en fous qu'il ait un Oscar. Il a pas eu d'Oscar pour
Non, mais
Mandy, alors que c'est un des plus grands films qui s'est sorti cette année-là. Hein. Enfin, désolé. Hein. Mais oui.
Pour Leaving Las Vegas en 96,
ouais,
c'est
ouais.
ça.
Et puis il aurait sûrement dû avoir un Oscar aussi pour son film avec Lynch. Il aurait dû avoir un Oscar
Oui.
pour son film avec Werner Herzog. Il aurait pu avoir un Oscar
Alors, de toute
pour.
façon, tous les gens qui jouent dans un film de Werner Herzog méritent l'Oscar, rien que pour avoir supporté Werner
Non,
Herzog.
il a
Mais
l'air.
ça, c'est un autre
Werner
problème.
Herzog a l'air trop cool, je suis désolé. Non, 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 non. À chaque fois que je vois des interviews de Werner Herzog, je fais genre putain, ce mec, c'est tellement un génie.
Ah, j'ai pas dit que c'était un mauvais film, enfin un mauvais
Ah, mais
réalisateur,
j'ai.
juste j'ai l'impression qu'il a des méthodes de gestion d'acteurs qui sont très particulières. Mais
Ah
là,
bah.
on s'égare, on
Bah
s'égare.
écoute, faudra qu'on en reparle parce que c'est la première fois que j'entends dire ça. Mais en tout cas, bah écoute, pour le coup, et non, Wicker Man, le film original, allez le voir, pour le coup,
Ouais.
c'est clair. Mais donc celui 73, hein, pas la remake. Ou alors regardez les extraits sur YouTube. Et puis, bah, la BO, voilà, totalement ambiance champêtre, joyeux et tout. Donc, encore une fois, on est dans la thématique, mais voilà, là, ça se passe moins bien.
C'est la conclusion qui est moins bonne. Il nous reste donc ta dernière reco, où là, par contre, j'étais à la fois pas surpris et à la fois surpris. J'ai surkiffé parce que de toute façon, c'est. Je vais te la laisser la dire du coup.
Alors, c'est l'album Biophilia de Björk.
Alors, qu'est-ce qui ne me surprend pas? Que Björk apparaisse là, ça a une forme de cohérence, surtout depuis quelques années avec toutes les positions écologiques et environnementales qu'elle prend. Il y a une forme de logique. Un peu moins. Là, par contre, ça m'a surpris, c'est qu'au final, je me rends compte que j'étais complètement passé à côté de cet album de Björk, que je ne l'avais jamais écouté. Du coup, rien que pour ça, je suis très content. J'ai aussi découvert l'histoire de cet album qui a été enregistré sur presque 3 ans, ça m'a énormément surpris. Du coup, je vais. Déjà, pourquoi est-ce que tu l'as mis là, toi? Qu'est-ce qui fait que tu y as
Alors,
pensé?
j'y ai pensé parce que ben, quand le dernier Björk est sorti, qui était l'an dernier, je crois, je m'étais refait en fait les tout récents. Enfin, je m'étais fait les tout récents parce que je m'étais aussi rendu compte que j'avais quand même laissé un grand vide et que je m'étais un peu arrêté au tout début. Et Biophilia, c'est dans le lot, c'est celui que j'ai préféré. Hein. J'ai pas trop réécouté ceux d'après, mais celui-là, c'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus accrocheur, le plus intéressant. Et qui restait un peu dans la même dynamique d'ailleurs que Homogénique, parce qu'il y avait toujours ce jeu avec la technologie. Alors après, effectivement, c'est un disque qui, une fois que j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière, je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments politiques, en fait, derrière, puisque c'est un disque qui a été préfiguré par l'engagement encore plus prononcé de Björk pour la protection de l'environnement islandais. Donc bon, ça c'est quelque chose qui était déjà présent dans Homogenic, puisque Homogenic était le disque où elle s'était posé la question de à quoi la musique traditionnelle islandaise pouvait ressembler et comment créer une musique traditionnelle islandaise. Donc elle avait tenté de faire ça avec Homogenic, même si au final bah, ça sonnait comme du Björk, quoi. Ça reste quand même... Je dirais qu'il n'y avait pas... les morceaux n'ont peut-être pas vertu à devenir des morceaux qui sont facilement imputables à une culture quand ils sont autant marqués peut-être par l'artiste qui les crée, quoi. Et pour le coup, Biophilia est vraiment totalement dans cette thématique-là, on reste toujours dans son prolongement. Il y a toujours cet élément technologique, mais mêlé à des éléments plus traditionnels. Donc voilà, il y a le fait que c'est un disque qui est donc préfiguré par toute la campagne donc de Björk pour financer par exemple les industries durables en Islande, s'opposer à la vente des ressources naturelles islandaises, un capital privé. Donc elle a fait une pétition par rapport à ça. Elle avait créé un fonds de financement justement pour les industries. Donc pour des techniques qui sont plus ou moins efficaces, hein, on pourrait faire tout un débat autour de ça, mais qui s'échapperait de la musique sur est-ce qu'on doit s'utiliser les armes du capitalisme pour pouvoir sauver la nature ou préserver l'environnement. Est-ce que ça a vraiment une utilité ou en tout cas est-ce que c'est pas plutôt s'enfoncer dans une mauvaise direction? Bon, on pourrait débattre, mais en tout cas elle a fait beaucoup de choses qui étaient des initiatives vraiment très concrètes. Et en soi, bah, c'est tout à son honneur, hein, donc même si on peut rester de notre petit côté, enfin moi je peux faire mes petites critiques et dire genre oui peut-être, mais bon, bah oui, mais en même temps j'ai pas fait tout ça, hein, donc c'est peut-être possible de la fermer. Mais bon, Biophilia, c'est vraiment un disque qui est pas uniquement un album, mais qui est aussi influencé par toute un environnement personnel et culturel en fait au sein même de la vie islandaise, et qui est une sorte de réponse à ça, puisque du coup la pochette elle est représentée comme un cyborg avec une harpe incorporée à la place de son ventre, donc ça correspond encore très bien à la figure de Björk en elle-même, qui est alors je dirais pas qu'il fait de la musique pour ses enfants, mais en tout cas qui la place et la figure maternelle est quelque chose, je pense qu'elle s'est très bien incorporé dans son esthétique, dans son travail en tant qu'artiste, et qui fait que voilà, tu peux pas limiter Björk à être une mère, mais tu peux pas enlever à Björk le fait qu'elle soit mère, et que justement, bah, j'imagine que vouloir protéger l'Islande, c'est pas uniquement protéger le pays où elle a grandi, c'est aussi protéger l'environnement dans lequel ses enfants pourront grandir aussi, et ses petits-enfants. Et je trouve qu'il y a ces éléments-là, en fait, qui se retrouvent dans l'initiative de Björk, et qu'on retrouve, en fait, dans la musique de Biophilia, qui justement, enfin, pour moi, si j'avais à la rattacher, en fait, à la thématique champêtre, bah justement, c'est le côté, voilà, l'échelle microscopique, quoi. C'est peut-être la famille, mais alors la famille, du coup, de vraiment hippie qui va te faire bouffer du quinoa, mais en même temps, c'est la famille qui va t'accueillir et qui va te ramener aux vraies valeurs, qui est celle, donc, soit la communion, d'une manière beaucoup plus, au niveau... presque de l'ADN, quoi. On est vraiment là au niveau microscopique, mais parce que musicalement on retrouve ce travail sur les détails, et puis ce côté très électronique, en fait, qui fait que du coup t'as vraiment l'impression de te trouver au sein même d'une molécule, et t'entends une musique qui pourrait être vraiment la musique d'un voyage, en fait, au centre même de la vie. Je trouve c'est vraiment un disque que je trouve vraiment fascinant de ce point de vue là, malgré le fait qu'il utilise des fois des techniques, ou en tout cas par exemple t'as un Amen Break à un moment, donc dans Cristalline, et genre Amen Break c'est quand même un truc qui est surutilisé, quoi. C'est le sample tout tout chi tout 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 chi que tu retrouves dans toute la drum and bass.
Ça passe
Déjà, c'est un sample qui continue toujours d'être réinventé pratiquement, même si on ne le change pas, en fait, on le réutilise partout et il sonne toujours aussi frais. Mais en même temps, en fait, il correspond très bien à le côté biomécanique, en fait, du disque, en fait. Mélanger avec ça, avec des notes de harpe, et en fait, il y a plein de gens qui font ce genre de genre de sonorité où tu dis genre, ah ouais, on a pris des beats techno et puis on a mis du violon. Genre, c'est chiant, quoi. Et tu regardes.
Voilà, tout fait bien.
Tu regardes Björk, tu fais genre, ah ouais, en fait, c'est surtout qu'il faut du génie, en fait. C'est pas donné à tout le monde, hein, forcément, mais c'est vraiment l'exemple type du comment tu fais un disque qui en théorie, va dans des thématiques, ou en tout cas utilise des techniques qui ont été déjà surutilisées et mal utilisées, pour en faire un disque qui est juste du pur génie, en fait, hein. Parce que ouais. Voilà, tu sais très bien utiliser ta voix, bon, déjà aussi parce qu'elle a une voix exceptionnelle, mais aussi parce qu'elle est extrêmement bien incorporée dans les instruments. Je pense je me demande combien de temps il passe à enregistrer les instruments pour les disques de Björk, et après combien de temps il passe pour mixer le tout. Je pense que le temps de mixage doit être genre 3-4 fois supérieur, quoi, aisément, quoi, parce que
ce serait extrêmement intéressant. Je suis d'accord avec toi, c'est le genre d'artiste qui est dont j'adorerais voir le processus créatif de A à Z, parce que il y a
le processus d'équilibrage est parfaitement maîtrisé, fou, mais c'est tellement bien géré.
Ouais, je voudrais tellement comprendre comment elle va voir comment elle fonctionne, parce que ça doit être incroyablement fascinant, tout le processus créatif, toute l'intention, puis l'agencement, le montage, je ne sais pas comment dire ça, que ce soit aussi bien sonore que finalement un peu intellectuel qu'il y a avec ses paroles. Enfin, moi, je suis... elle est fascinante à tous les points de vue,
oui, honnêtement. Oui, bien sûr. Et après, je pense que par rapport à savoir comment ça se passe, je pense qu'il y a facilement des bonus, en fait, sur ces disques, ou si c'est l'édition CD, il y a peut-être des DVD avec. Alors c'est un disque qui date de 2011, donc c'était encore peut-être gérable d'avoir des éditions comme ça, où tu mets un documentaire gratos dessus, quoi. Et je serais pas surpris, en fait, que tu puisses retrouver quelque part sur Internet ou sur le disque en lui-même des éléments où voilà, parce que pour le coup, Björk, c'est, je trouve, quelqu'un qui pas tant que ça fait de secret, en fait, sur son processus créatif. Et elle est pas en train de se réoler de genre, oh mon Dieu, faut pas que les gens sachent comment je travaille, genre, c'est genre, non, venez, voilà, on fait ça. Je pense toujours, c'est cette vidéo culte de Björk, hein, où elle ouvre une télé, et genre, elle s'intéresse à comment la télé fonctionne, et genre, oui, regardez, alors t'as tel processus et tout, tel processeur et tout, tu fais genre, ah ouais, c'est ouf. Et c'est une vidéo qui culte sur Internet, parce que c'est vrai que c'est quand même assez surprenant de voir Björk, en plus, dans ses jeunes années, ouvrir une télévision et dire genre, alors aujourd'hui on va faire de la technique, alors ça sert à ça et tout, mais c'est clairement le genre de personne qui justement, enfin, déboulonne les machines et se dit genre, ok, alors ça fonctionne comment, ok, bon, on va faire ça autrement alors, parce que il y a justement ce côté touche à tout, ce côté aussi elle connaît, en fait, elle comprend le fonctionnement de ce qu'elle utilise. Et elle n'est pas sujette, en fait, aux limitations qui sont imposées de base. Elle dit genre, ok, bon,
je suis d'accord avec toi. Elle a une démarche qui, de toute façon, elle ne se pose pas la question des limites. Et c'est là où je te dis que je serais, en termes de pure créativité, c'est quelqu'un de fascinant qui... comme on le dit, et tu le faisais très bien remarquer, il démontre comment bien utiliser et utiliser de façon magistrale certaines façons de mixer, certains instruments, entre guillemets, ou certaines technologies modernes. Et elle transcende littéralement tout ça, et elle va au-delà de ce qu'on pourrait penser faire avec, et c'est quelqu'un qui ne se pose pas la question de la limite au sens strict, vraiment pas au sens physique, mais vraiment de la limite de ce qu'on peut pousser les trucs. Elle sait ce qu'elle veut obtenir comme rendu, je pense, et elle trouve les moyens de le faire par les outils, par sa voix. Enfin, c'est pour ça, elle est fascinante, vraiment. Je vois pas vraiment d'autre comment la qualifier. Quoi.
Alors, du coup, les albums d'après, je crois qu'ils sont produits beaucoup avec, en collaboration avec une artiste, je crois qu'elle est, c'est une personne non-binaire, Arca, qui a beaucoup bossé justement sur, je crois aussi, alors pas juste Fossora, mais en tout cas sur Utopia. Et j'avais un peu moins accroché. Mais du coup, il faudrait que je me refasse ces disques, en fait, par la suite. Mais je crois qu'ils restent un petit peu dans la même... comment dire, ils restent dans le prolongement, en fait, de Viophilia, dans mes souvenirs, tout en quand même se développant au fur et à mesure. Hein, pas du jour à répéter les choses. Mais qui était justement... enfin, pour moi, Viophilia, c'est vraiment celui qui restait comme étant un de ces albums récents où je m'étais vraiment pris une grosse, grosse claque en disant, genre, bah... Ouais, Björk, t'as pas juste que les trois premiers, hein, quand même. T'as toujours une continuité qui reste toujours fascinante.
Ouais, c'est la suite. Alors, je te dis, moi, je me rends compte que j'ai raté pas mal de ces albums les plus récents. J'avais écouté Fossora, que j'aime beaucoup, et que j'avais raté Utopia, tu vois, donc... j'ai plein de trucs à rattraper. C'est sur quelqu'un que j'apprécie, dont j'apprécie le travail. Ça me déprime d'avoir raté deux albums, mais voilà.
Mais
c'est,
ils sont toujours là. Hein. Oui, pas de souci.
C'est bien. C'est ça qui est cool. Et pour Arca, je l'avais croisé l'artiste. Alors je voudrais pas. Je ne sais plus dans quel cadre. Et ça me chiffonne parce que je vois plus du tout dans. Je crois que c'est Xen ou Mutant qu'il ou elle avait fait. Je voudrais pas. Pareil, je sais pas trop comment ça se définit. La personne, mais il faudrait que je regarde, mais c'est vrai que c'est aussi quelqu'un d'extrêmement intéressant dans l'approche et aussi dans le travail musical qui est engagé dans d'autres choses d'ailleurs. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter devant cette apologie?
Non, du tout.
Comment dire, c'est pas apologie, c'est pas le bon mot devant ce. C'est comment nous avons encensé Björk.
Non, du tout. Je pense que c'est le mot de la fin.
Et bah, c'est le mot de la fin. Voilà, c'est la fin de ce troisième top. On espère qu'il vous aura plu ou pas. Venez nous dire ce que vous pensez de ces 5 recos, superbes recos, je le redis. Je trouve que c'est un des meilleurs tops que tu nous aies proposé, Oro. Donc, venez nous dire ça en nous envoyant des messages sur l'Instagram de Recosic Podcast. C'est bien ça,
oui, c'est
je
ça.
Me trompe
tout
pas.
Tout sera dans la description de l'épisode, venez consulter dessus, sur PodCloud,
voilà.
Ou sur,
tout
sur Spotify.
Est là. Tout est là. Vous avez toutes les infos pour venir nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de cet épisode. Venez nous le dire, ça nous intéresse toujours, on vous répondra toujours. Et bah voilà, on vous dit à bientôt, et puis portez-vous bien.
Bisous.